Bonjour à tous, quelle joie d'être encore là parmi vous ce matin, de pouvoir vous apporter le message du Seigneur, comment le Seigneur a touché aussi mon cœur à travers ce message de Jonas. En tout cas, bienvenue à tous nos invités, les visages que je ne connais pas. En tout cas, vous êtes bienvenus ici parmi nous. Ici, c'est l'Église du Seigneur, c'est votre famille. Nous sommes contents de vous recevoir. Peut-être que vous traversez la France pour venir ici et c'est une grâce, c'est une joie, en tout cas, de pouvoir être ici avec vous. Merci aussi à ceux qui nous suivent en ligne aussi, parce que c'est vrai que vous êtes des fidèles aussi, vous nous suivez en ligne. Et en tout cas, vous avez tout notre amour, nos pensées aussi à vous qui nous suivent en ligne. J'espère que ces messages que vous regardez en ligne, ça puisse aussi vous toucher, comme ceux qui sont aussi en présentiel aussi. En tout cas, nous allons reprendre sans surprise la saga de l'été qui est « Bras de fer avec Dieu ». Et là, nous arrivons au deuxième chapitre du message. Et comme on a mon habitude, j'aime pas passer directement par le plat chaud. Je préfère toujours par l'apéro en cette saison d'été. L'apéro, c'est bon l'été. Je suis un fan des apéros. Voilà. Alors, j'ai une petite question comme introduction d'apéritif. Encore. Qui a déjà joué au jeu La Bataille Navale ? Waouh, des anciens marins ici, des anciens marins, rachetés par la grâce des dieux, waouh. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer c'est quoi les règles de ce jeu. Elles sont très simples, on place des bateaux sur des grilles et on doit essayer de deviner où sont les bateaux de l'adversaire. Et le but, c'est d'essayer de toucher, de faire couler les bateaux de l'adversaire. Et de ne pas aussi se faire toucher, bien sûr. Mais Jonas, lui, a cru pouvoir placer son bateau loin de l'Éternel, loin de Dieu, dans une grille. Hélas pour lui, Dieu connaissait parfaitement toutes les grilles de ce jeu. La dernière fois, nous avons vu qu'il était inutile de se cacher et de jouer à cache-cache avec Dieu. Mais ici, même à la bataille navale, Dieu gagne toujours. Dans une partie classique, quand on dit « toucher, couler », c'est que j'ai perdu. Mais avec Dieu, les règles changent un peu, parce que Dieu est un Dieu plus et plus que fair play. Avec Dieu, toucher, c'est couler, mais sauver. Amen, hein ? Alors nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet, nous allons rentrer dans la lecture de la parole de Dieu. Vous pouvez suivre avec moi directement à partir de l'écran ici, ou sinon à partir de vos Bibles. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel, son Dieu, en disant, « Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu, « Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer, et les courants m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Mais je verrai encore ton saint temple. L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les algues s'enroulaient autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent d'eux la bonté. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices. Avec un cri de reconnaissance, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Fin de la lecture de parole de Dieu. Je résumerai l'idée centrale de ce texte. Quand Dieu touche ta vie, il peut te laisser couler, mais pour mieux te sauver. Le chapitre 2 marque un tournant radical dans l'attitude du prophète de l'Éternel. Au chapitre 1, nous avons vu que Jonas a fui, a désobéi à l'appel du Seigneur, en jouant littéralement à ce petit jeu de cache-cache. Mais Dieu, lui, a continué à poursuivre son prophète. Pas pour le perdre, bien sûr, mais pour le gagner. Alors Dieu fit lever une violente tempête. Les marins, pris de panique, décidèrent de jeter à la mer le prophète, comme il leur avait demandé. Et aussitôt, la tempête s'apaisa. Mais c'est simplement que pour les marins. Pour Jonas, la tempête, elle, par contre, va que commencer maintenant. Humainement, tout simplement, on se dirait c'est fini. Mais spirituellement, attention, c'est le début d'un nouveau chapitre. Du désert, de son silence du prophète, on passe soudainement à un déluge de paroles. Mais pour que ce miracle intérieur se produise, il faut d'abord que Jonas passe par une étape importante. Dieu doit isoler Jonas. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel, son Dieu, en disant « Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu. Du milieu des séjours des morts, j'ai appelé au secours, et tu as entendu ma voix. » Ici, dans le chapitre 2, l'ordre chronologique du passage n'est pas vraiment en ordre chronologique. Jonas n'a pas été sauvé tout de suite une fois qu'il a été mis à l'eau. C'est bien après. Parce qu'on voit dans la prière de Jonas que c'est bien après. Il raconte son péripétie au fond des abîmes. C'est après qu'intervient le poisson. Alors, la question du sauvetage miraculeux de ce grand poisson envoyé par Dieu qui nous intrigue ici. L'Éternel fit un grand poisson pour avaler Jonas. La question de ce grand poisson est souvent très très controversé. Même moi, la première fois que j'ai lu ça, j'ai dit « Wow, c'est possible ? Vraiment ?» Et certains rejettent carrément l'historicité de ce livre à cause de cette image improbable du grand poisson. Jonas, on le rejette cette histoire probablement parce que Jonas, c'est pas forcément qu'il a avalé le poisson, c'est qu'il l'a avalé dans le ventre 3 jours et 3 nuits. C'est pas possible, en plus, d'être dans un ventre pendant 3 jours et 3 nuits, c'est encore moins crédible. Mais si on refuse le miracle, ce miracle-là, que Jonas est passé dans le ventre du poisson, alors il faut aussi refuser la tempête qu'il y a eu juste avant. La venue du poisson géant est probablement était créé spécialement, Dieu a fait ce miracle, peut-être, probablement, que pour Jonas. Alors, si on doute de la véracité de ce texte et qu'on le remet en question, ce miracle, alors il faudra enlever beaucoup d'autres miracles de la Bible. Car depuis le début de la création jusqu'au jugement dernier, la Bible relate des milliers et des milliers de miracles. Pourquoi je pense que ce récit est à la fois historique et prophétique ? Pourquoi je pense comme ça ? Parce que Jésus va nous le démontrer en prenant l'exemple directement à partir des évangiles. Dans les évangiles de Matthieu, au chapitre 12, quelques-uns des spécialistes virent venir voir Jésus avec des pharisiens et demandent à Jésus de leur faire un signe miraculeux. Et on voit dans le chapitre Matthieu, chapitre 12, versets 39 à 40, Jésus répondit, « Une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux. Il ne lui aura pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. En effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. » Ici, Jésus a pris Jonas comme un exemple, un signe de prophétie, un fait réel, sans aucun doute, pour annoncer un signe prophétique, sa mort et sa résurrection. Il est inconcevable que Jésus, notre Seigneur, a pu prendre un conte de fées ou une fable pour enseigner cet enseignement si important. Reconnaître Jonas comme un récit historique et prophétique est la seule position acceptable pour ceux qui reconnaissent la divinité de Jésus-Christ. Quant au grand poisson, la Bible ne parle pas de baleine. Et souvent, j'ai entendu l'histoire de la baleine. Et je le dis des fois par erreur, des fois, mais Franck, il m'a repris là toujours. Et la version Septante, le mot en grec qui est dit kétos, veut dire grand monstre marin. En admettant que c'était une baleine, parce que j'ai voulu persévérer dans ma conscience. On sait qu'un homme peut se faire avaler par une baleine, et je vais vous le prouver, parce que vous connaissez cet homme-là. En février 2025, un Chilien nommé Adrien Simancas, un kayakiste de 24 ans, a brièvement été englouti par une baleine. Témoignage parce que son père était derrière et a filmé en direct. Je n'ai pas pu vous faire montrer la vidéo parce que c'est compliqué peut-être pour l'équipe technique. Mais en tout cas, la baleine a réussi à l'avaler. J'ai bien vu qu'il avalait lui, mais avec la kayak. C'est incroyable, un kayak. Il avalait le kayak plus l'homme. Donc pour vous dire l'espace qui est dans sa bouche d'une baleine, c'est incroyable. Ouais. Donc ça prouve quoi? Ça prouve qu'il est possible qu'une baleine, hein, ma théorie de la baleine, qu'une baleine puisse avaler un homme. Hein. Mais bon, il l'a recraché. Voilà, c'était pas comme Jonas. Fallait bien s'y attendre. Hein. Mais la question, c'est que, est-ce qu'une baleine peut l'avaler pendant 3 jours et 3 nuits? Non, là, c'est pas vrai. C'est là qu'intervient le miracle de Dieu. Rappelez-vous, nous avons vu que Dieu est le seul véritable maître du ciel, de la terre et de la mer, avec ses 3 attributs divins. Il n'est pas limité par rien, car Dieu est omnipotent, tout puissant. Le grand poisson de Jonas n'est simplement qu'un outil choisi par Dieu à ce moment voulu. Si Dieu décide qu'un grand poisson doit avaler Jonas, eh bien, il le fera. Et l'avaler pendant 3 jours et 3 nuits, c'est possible. Mais si nous devons l'expliquer par une cause biologique, non. Mais c'est une grâce, intervention divine de Dieu. Pour Jonas, le grand poisson, pour lui, c'est un miracle extraordinaire. Et je pense que si nous vivrons la même situation de Jonas, ce serait un grand miracle exceptionnel. Mais pour Dieu, pour montrer la puissance et la souveraineté de Dieu, pour Dieu, ce n'est qu'une simple bouée de sauvetage envoyée à Jonas. La baleine, oh, pas la baleine, le grand poisson était simplement une bouée. Vous voyez, une bouée, vous pouvez... C'était juste ça pour Dieu. Mais nous, c'était... On ne croit pas, hein. On ne peut pas croire, c'est trop impossible. Et justement, qu'est-ce que c'est une intervention divine? Qu'est-ce qu'un miracle? Selon la définition de Wayne Grudem, un miracle est une activité divine, moins ordinaire, par laquelle Dieu se rend témoignage à lui-même et suscite l'admiration et l'étonnement chez les gens. Autrement dit, Dieu sort du cadre habituel de la création d'une façon qui attire notre attention sur lui, sur sa puissance. Un miracle est étroitement lié, n'oubliez pas cela, à la providence de Dieu. Un miracle est étroitement lié à la providence de Dieu. Dieu est au contrôle de tout et il est à l'œuvre au sein de sa création. Pour son bon fonctionnement, mais aussi pour l'accomplissement de ses plans. Ici, Dieu sauve Jonas dans le cadre d'un plan beaucoup plus vaste que ce que nous pouvons imaginer. Le salut de Ninive. Dieu offre son salut avec patience, voulant toucher le plus grand nombre d'hommes, même pour les pécheurs les plus endurcis du cœur, à l'image des Ninivites. Le salut signifie que l'homme est sauvé par l'action de grâce de Dieu. L'homme passe de la mort spirituelle à la vie éternelle avec lui. C'est comme dire binaire. Nous passons de la nuit des ténèbres ici à la lumière. C'est un changement radical. Pour Jonas, pour son cas, lui, c'est la repentance que Dieu attend de lui. Car en tant que prophète d'Israël, au royaume du Nord, il connaissait et avait foi en Dieu. C'est dans un moment d'isolement que Jonas compose une sorte de psaume de reconnaissance. C'est une prière adressée à Dieu qui montre un revirement complet là de l'attitude de Jonas qu'on ne voyait pas dans le chapitre 1. Après un terrible bras de fer avec Dieu, Jonas cesse de lutter en disant « Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu. Du milieu des séjours des morts, J'ai appelé au secours et tu as entendu ma voix. » La prière de Jonas reprend plusieurs passages des psaumes reconstitués, montrant qu'il connaissait les Écritures. Il connaissait les Écritures. Et c'est au séjour des morts, au fond de l'océan, que Jonas réagit enfin, comme l'avaient fait les marins en détresse. Il reconnaît que son âme était accablée au plus profond de lui-même. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. Quand nous devenons insensibles à Dieu, endormis à ne plus vouloir entendre la voix de Dieu, eh bien c'est souvent lorsque Dieu touche ce qui nous tient le plus à cœur dans notre vie que nous nous réveillons, même si ce n'est pas du tout agréable. Comme un enfant puni au coin, Dieu discipline dans un temps d'isolement afin que nous puissions réfléchir, afin de pouvoir mieux revenir vers lui. Malheureusement, bien trop souvent, le cœur humain doit attendre de couler très, très profondément avant de parvenir à entendre le signal de Dieu. C'est triste d'en arriver là. Et j'ai beaucoup de personnes autour de moi. C'est compliqué, quoi. Tu te dis, il suffit juste d'un petit truc et clac, les personnes se réveillent, mais ils attendent de couler. Très triste. En conséquence de sa désobéissance, Dieu savait exactement où le toucher. Avec la tempête, premièrement, mais Dieu ne l'épargne pas de la noyade. Dieu laisse couler Jonas. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer, et les courants m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Jonas comprend dès lors que son séjour au fond de la mer, des océans, symbolise pour lui un jugement de Dieu sur lui. À cause, bien sûr, de sa désobéissance, et aussi qu'il a fui loin de l'Éternel en voulant se cacher. Jonas était là, en train de ramasser les pots cassés de sa désobéissance. Mais Jonas ne blâme pas l'Éternel de l'avoir puni pour sa désobéissance, car il sait que tout pécheur doit être jugé conformément à ses œuvres et à ses paroles. Jésus nous enseigne exactement ces deux vérités dans les évangiles de Matthieu. Regardons, dans Matthieu, chapitre 16 à 27. « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Jugement des paroles. Matthieu chapitre 12, versets 36 à 37. Aussi, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'il aurait proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Dieu agit comme un maître nageur. Il ne laisse pas son prophète enfoui dans les abîmes, mais il vient à son secours, comme un maître nageur qui vient sauver son bien-aimé. Alors, en matière de sauvetage, il est important, il est très recommandé même, d'aller secourir un nageur qui est en train de se noyer, de ne pas s'approcher tout de suite, parce qu'il est en train de crier, de se débattre et d'avoir la tasse. Et si vous arrivez, vous le saisissez, lui va s'accrocher à vous, il va stresser, il va vous emmener avec lui au fond de l'eau et vous allez vous noyer. Donc au lieu de perdre un homme, on va en perdre deux. C'est pas rentable. Hein ? Non, je rigole. Mais en tout cas, c'est triste. Donc, ce qu'il faut, en règle de matière de sauvetage aquatique, le maître nageur, qu'est-ce qu'il fait ? Il doit attendre. Attendre. Soyons patients. Laissons-le couler. Eh oui ! Pourquoi ? Parce que la personne ne pourra plus se débattre, ne pourra plus résister, être un élément dangereux pour le sauvetage. Vous comprenez ? Donc, ça veut dire que la personne va faire brrr, et puis après là, on arrive, clac, et lui, il ne peut plus se débattre. Voilà, et puis on retourne tranquillement jusqu'à la berge. C'est comme ça, en matière de sauvetage. Hein, bah, essayez, hein. Les deux cas, peut-être. On verra c'est quel le mieux qui marche. En tout cas, Dieu permet parfois, hélas, la noyade pour briser notre orgueil, pour briser nos résistances. Eh oui, parfois on ne comprend pas pourquoi nous touchons le fond. Seigneur, où es-tu ? Et pourtant, mais en fait on est ça, on est le nageur qui se débat. Et Dieu il dit, coule un peu encore. Attends, je viendrai après. Alors Dieu ne veut pas laisser son prophète dans les abîmes. Dès qu'il entend un cri sincère du cœur, alors là il agit comme un repêcheur, comme il le fait ici avec son sauveur, à son serviteur. Dieu repêche Jonas. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie, l'abîme m'a enveloppé, les algues s'enroulaient autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as remonté, tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi et dans ton saint temple. Jonas décrit ici la descente très, très, très sombre de sa vie. Une plongée directe droit dans les abîmes. Alors on peut ressentir dans ce passage toute la réalité, la frayeur de la noyade, le poids des eaux, l'étreint de la profondeur, la pression, cette impression terrifiante d'être aspiré par le fond et de ne pouvoir jamais remonter, sans oxygène, étouffé, sans aucun espoir de retour. Jonas ici touche littéralement le fond, physiquement mais aussi spirituellement. Parfois, on peut ressentir ça quand nous sommes aussi dans des moments, des saisons très difficiles, comme je dis, des canicules spirituelles. On peut se sentir comme ça. Être éloigné de Dieu, comme si Dieu nous avait tourné le dos. Oui, effectivement. Mais c'est un peu comme l'image de Jonas, là, dans le fond de l'abîme, c'est un peu comme l'image du judo. Le judoka, quand l'adversaire te saisit, te projette au sol, te fait un plaquage, une clé de bras, eh ben, tu n'as plus d'issue. Tu ne peux que faire « Maté, maté, j'abandonne, je reconnais que je ne peux plus m'en sortir. Je ne peux pas me libérer de cette clé de bras et cette saisie. Je ne peux plus par mes propres forces. Maté. » Et au fond de l'océan, dans l'obscurité totale, Jonas se trouve exactement dans cette situation. Désespéré. Mais ce sentiment n'est que passager. Car bientôt Jonas affirme avec foi qu'il reverra son Saint-Temple. Son Saint-Temple. Autrement dit, il retrouvera la présence et le visage de Dieu. Alors, ici, pour nous dire qu'il n'est jamais trop tard pour Dieu, même quand nous pensons qu'il est déjà bien trop tard pour nous, le salut de Dieu arrive toujours au moment parfait. Et ça, c'est sûr. Parce que nous l'avons vécu, je pense, chacun a un témoignage ici. Et on peut l'affirmer que le salut est arrivé au moment parfait de notre vie. Bien souvent, de manière inattendue. On ne s'attendait même pas. Si Jonas a pu continuer à vivre, c'est en raison de sa prière de repentance. Quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Alors dans la détresse, n'oublions jamais, la prière est une arme à ne jamais sous-estimer. Dans la prière, dans la détresse, la prière est une arme à ne jamais sous-estimer. Oui, Dieu veut qu'on prie. Dieu veut qu'on prie. Pourquoi Dieu veut que nous prions ? C'est ça la question. Bien sûr, nous savons que la prière est un moyen de communication, de parler personnellement avec Dieu. On le sait ça. Mais ça, c'est que les grands principes. Sa raison est bien plus profonde de la prière. Prier, c'est entrer dans une dimension spirituelle où l'on exprime notre confiance totale à Dieu. Ce ne sont pas des simples paroles en l'air. La prière implique trois éléments, trois choses essentiel à retenir. D'abord, nous devons prier avec la foi. C'est croire fermement que notre Dieu entend, mais qu'il répondra aussi. Ensuite, la prière. Prier dans une totale indépendance de Dieu. C'est reconnaître que c'est Dieu qui est le seul auteur de la grâce pour nous et que rien n'est fait sans lui. Et troisième point, Dieu y prend vraiment plaisir. C'est ça, car la prière est un mélange d'un parfum de bonne odeur. Pourquoi ? Parce que la prière mélange ce que nous pensons et aussi ce que nous éprouvons. C'est un mélange de bons parfums qui vient à Dieu. Il est donc naturel que Dieu y trouve un plaisir dans sa relation à nous entendre prier à lui. Parfois, le croyant semble vraiment parfois très découragé dans la prière. Et ça, c'est une réalité. Alors, du coup, j'ai relevé trois causes qui pourraient, ou qui causent la cause que nous ne sommes pas encouragés à prier. Premièrement, très simple, la paresse. On n'a pas la force de vouloir lever les yeux vers Dieu. On n'a pas envie, la paresse. Deuxième point, la culpabilité. Le poids de nos péchés dans nos vies à nous sentir parfois indignes de venir à Dieu, une honte, on se cache. Alors qu'en réalité, qu'est-ce que Dieu veut ? C'est à ce moment-là que Dieu te tend les bras. Et viens, viens à moi, ne te cache plus. On a la culpabilité, on ne veut plus prier. Et troisième point, la distraction. Les activités de la vie prennent toute leur place dans notre temps, dans nos pensées, dans notre cœur. Et Dieu est au second plan. Alors, il serait vraiment regrettable, mes frères et sœurs, d'attendre d'être dans les abîmes comme Jonas pour commencer à prier. N'attendez pas d'être dans les abîmes. Parfois, il suffit juste de dire « Seigneur, aide-moi à prier ». Juste ça, c'est une prière. Et Dieu l'entend. Parfois, on croit que Dieu est loin. Mais Dieu n'est pas si loin, finalement. Dieu est prêt pour entendre nos prières d'un cœur repentant, comme avec Jonas. Même quand on croit que notre âme est au plus bas, est abattue, quand tout semble être perdu, en confusion, le simple de venir à Dieu et de prier, simplement de lui prier par une prière simple, aide-moi à prier, eh bien ça ouvre un nouveau chemin vers sa présence. Jonas n'était ni dans un temple, ni dans un temple plutôt terrestre, et entouré de louanges. Il était ni entouré de louanges aussi. Mais pourtant, il affirme dans son passage que « ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple ». Alors cela doit nous rappeler que la portée de la prière, parce qu'il y a la portée, il y a la prière, mais aussi la portée de la prière, elle dépasse nos circonstances physiques et ce que l'on peut ressentir. Par conséquent, tout ce que nous pensons ou ressentons à propos de Dieu, s'exprime de la façon la plus profonde dans nos prières. C'est là, dans la prière, dans l'intimité avec Dieu, qu'exprime tout ce que nous ressentons à propos de Dieu. Jonas ne ressort pas du poisson comme un naufragé encore perdu, mais comme un homme réorienté. Quand Dieu repêche, ce n'est pas seulement pour nous faire respirer à nouveau, mais pour nous relever, afin de purifier nos cœurs et nous remettre sur le droit chemin de notre mission première. C'est exactement ce que montrent les derniers versets que nous allons voir. Jonas passe de la détresse à la louange, de la fuite à l'obéissance, car Dieu restaure Jonas. Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent d'eux la bonté. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. La grande traversée que nous avons vue dans le chapitre 1 et aussi la noyade ici au chapitre 2, de l'est à l'est, de la surface aux abîmes, tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, n'était finalement que les prémices du plan divin, de la suprématie de Dieu. Dieu voulait mettre en ordre prioritaire le cœur de Jonas. Car ses mauvaises intentions à lui, son orgueil, sa fuite, sa désobéissance, entravaient sa relation première avec lui, le conduisant dans un véritable bras de fer avec Dieu. Mais cela ne durera pas longtemps. La captivité dans le ventre du grand poisson va amener Jonas à capituler. Voilà comment il exprime au verset 9. Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent d'eux la bonté. Jonas a compris que les idolâtres ne pouvaient s'approcher que de la bonté de Dieu. Alors qu'est-ce que c'est un idolâtre ? Un idolâtre, c'est quelqu'un qui donne à une créature ou à une chose la place première de ce qui revient à Dieu seul. Et qu'est-ce qu'une idole ? Dans la Bible, une idole n'est pas simplement une statue sculptée, mais tout ce que l'homme élève au rang de Dieu. Cela peut être une bonne chose, mais comme aussi une mauvaise. Le prophète Ézéchiel décrit un idole est comme un désir, une passion qui domine le cœur de l'homme. Dans Ézéchiel chapitre 14, verset 3, « Ces hommes portent leurs idoles dans leur cœur. » Et l'apôtre Paul dit que le fait de convoiter est déjà une forme d'idolâtrie dans Colossiens chapitre 3, verset 5. « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. » Alors là, je vais vous présenter un tableau, probablement qui va peut-être vous faire en sorte que vous reconnaissez peut-être des idoles en vous. Alors, idole liée à la réussite et au travail, la carrière professionnelle, l'argent, la sécurité financière, le succès, la reconnaissance sociale, la réputation, l'ambition personnelle, être le meilleur à tout prix. Dans les idoles de la culture moderne, les réseaux sociaux, like, followers, influence, la célébrité et les stars, musique, sport, cinéma, le divertissement, les jeux vidéo, séries, sports extrêmes. Les idoles les plus personnelles et affectives, les biens matériels, maisons, voitures, vêtements de luxe, le confort et la consommation, les relations, conjoints, enfants, amis, quand ils prennent la première place de Dieu. Le corps et l'apparence physique, culte, du fitness, chirurgie, beauté. Idole invisible mais puissante, le contrôle de sa vie, vouloir tout maîtriser soi-même, le plaisir immédiat, sexualité, addiction, alcool, drogue, la technologie, nouveaux gadgets, intelligence artificielle, science sans Dieu. Tout ça peut être des idoles, mal gérées, peut-être peut avoir des conséquences. Les idoles du cœur sont un gros handicap, comme je disais. Si elles sont mal gérées, elles peuvent nous priver de la bonté de Dieu, même si elles paraissent bonnes au départ, mais elles peuvent finir nocives à la fin. Donc, elles nous privent de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, traduit en mots hébreux « hesed », signifie « amour fidèle, miséricorde, bienveillance et grâce de Dieu ». Vous voyez de quoi nous privons si nous laissons le moindre idole être la première place dans notre vie ? N'est-ce pas la grâce et la bonté de Dieu qui nous a tous rachetés aujourd'hui, adoptés aussi, et nous appelle aujourd'hui enfants de Dieu ? Alors comment pouvons-nous encore laisser place à de telles idoles sans circonstance, comme le dit Jonas dans nos vies, face à une telle bonté éternelle de Dieu ? Comment peut-on ? Alors j'aimerais nous encourager par trois moyens de sabrage. J'utilise l'emploi que Franck et moi on utilise beaucoup. On a bien sabré, et là on va sabrer les idoles, hein, parce qu'il n'y a pas que les textes à sabrer. Hein. Premièrement, on respecte le premier et le plus grand des commandements de Dieu, de Jésus. Je préfère celle de Jésus. Pourquoi ? On va regarder ensemble. Dans Matthieu, est-ce que je l'ai mis ? Je ne l'ai pas mis, donc je vais vous le lire. Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 38. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. » Jésus ne fait pas que de répéter le premier commandement qui a été donné à Moïse au mont Sinaï. Non, Jésus va toujours plus loin. Il amplifie ce commandement. « Aimer Dieu totalement, c'est dire... Je ne partage pas. Je n'ai pas d'idole qui remplace la place de Dieu dans mon cœur et dans ma vie. » Eh oui, c'est ça. Deuxième point, chaque jour apprendre à cultiver une discipline spirituelle en questionnant nos motivations profondes, bien sûr accompagnées avec l'arme la plus puissante que nous avons, la prière. Troisième point, comme toute relation amicale et amoureuse, elle s'entretient, pas seulement par envie, comme ça, j'ai envie, demain, je me lève, j'ai envie. Non, par engagement. Aimer, c'est un engagement. Je décide donc volontairement d'aimer Dieu. Je décide, c'est pas j'ai un sentiment, je décide d'aimer Dieu. Et qu'il soit ma priorité dans ma vie. Et je le sers. C'est ce que Jonas fait ici. Il s'engage devant l'Éternel. Au verset 10. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Une vraie repentance, mes frères et sœurs, conduit toujours à des actions concrètes. Oui, si l'on regrette une mauvaise action que nous avons faite, mais que nous ne changeons pas d'attitude, est-ce vraiment une vraie repentance ? La véritable repentance doit nous attrister, bien sûr, mais elle nous conduit aussi à un changement. Ici, Jonas s'engage ainsi à offrir des sacrifices, à prier Dieu et à accomplir les promesses qu'il a faites. Jonas passe radicalement des ténèbres à la lumière. Il comprend que le seul vrai salut qu'il peut avoir vient seulement de l'Éternel, son Dieu. Alors nous arrivons au dernier verset. L'Éternel parla au poisson et le fit vomir. Encore une fois, le salut vient entièrement de Dieu ici. Tout est à l'œuvre par Dieu lui-même. C'est Dieu qui parle au poisson et lui commande de recracher Jonas sur la terre. Ce n'est pas simplement le fruit de la prière de Jonas ou bien l'aboutissement de ses bonnes actions. Non, c'est Dieu qui décide. Quand c'est le bon moment de lever la punition, c'est Dieu qui décide de lever la punition. Quand Dieu déclare que l'épreuve est terminée, eh bien, elle sera terminée, elle prendra fin. Jonas n'est pas seulement sauvé, mais il est remis debout, envoyé à nouveau dans sa mission. Alors que même quand Dieu nous repêche dans nos abîmes, dans nos tempêtes de la vie, ce n'est pas simplement pour nous faire remonter à la surface, c'est pour nous restaurer. Dieu veut nous restaurer, Dieu veut nous purifier de nos idoles et nous remettre en marche avec lui. Alors, nous arrivons à la conclusion. Peut-être, aujourd'hui, tu te reconnais dans la prière de Jonas. Peut-être que tu traverses des moments difficiles, et nous devons tous compatir aux personnes, et aussi qui sont aux alentours de Dieu, que Dieu nous met autour de nous, aussi dans la souffrance. Nous devons aussi penser à eux. Peut-être que tu vis un isolement quand tout semble t'échapper. Couler, parce que les épreuves ou tes choix que tu as faits t'ont entraîné trop loin dans les courants de la vie. Peut-être que tu as bout de force aujourd'hui, persuadé qu'il est bien trop tard pour toi. Tu sais aujourd'hui que tu peux fuir, que tu peux te cacher devant Dieu, mais tu ne peux pas lui tenir tête encore plus longtemps. Dieu te laissera probablement couler, toucher le fond comme Jonas, pour briser ton orgueil et détruire tes idoles. Cette descente a parfois un goût de désespoir profond. Perdre un peu le goût de la vie, comme on dit. Mais ce goût de désespoir est sûrement le prix d'une grande restauration. Et toi, quelle est ta tempête aujourd'hui devant Dieu ? Quelle profondeur te trouves-tu ou que Dieu veut te repêcher ? La bonne nouvelle, c'est que le Dieu qui a repêché Jonas est toujours le même encore aujourd'hui. En Jésus-Christ, Dieu est descendu dans les abîmes pour nous. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Quelle grâce, quelle bonté. Alors aujourd'hui, n'attends plus, crie vers lui. Là où tu es, au cœur de la tempête, dans tes luttes ou dans tes profondeurs, quel que soit, tends-lui la main et tu pourras toi aussi dire, Seigneur, J'ai été touché. J'ai coulé. Mais je suis sauvé. Amen.